faut arrêter la machine. Il faut arrêter la machine. Sinon.
Allez, vous allez l'entendre démarrer.
Mon cher service public, paroles intimes et individuelles pour nous raconter la vie en communauté.
Pour moi, dans le service public, il y a deux données. Il y a service et il y a public. Pour moi, service, c'est une attitude vers l'autre, hein, rémunérée pour beaucoup de fonctionnaires du service public français. Et puis il y a public, c'est-à-dire qu'il y a l'autre, c'est-à-dire pour moi, l'autre, c'est ce qui me fait exister, parce que sans les autres, je ne saurais ni lire, ni écrire, ni boutonner une cravate, quoi. Je suis Philippe Suard, je travaille actuellement à la Friche Belle de Mai, j'œuvre au niveau international dans des actions de solidarité et de réciprocité en termes d'alphabétisation et d'initiation en informatique pour les nouvelles générations, en Afrique essentiellement, aux Comores, au Burkina Faso, au Niger, Bénin, Cameroun et à Marseille bien sûr. Voilà, j'ai 57 ans. J'aime les gens. Oui, voilà. Rapidement dit. Pour moi, service public, ça veut dire service à l'autre. Qu'il soit rémunéré, bénévole, solidaire, associatif ou autre, quoi. Le service public, pour moi, c'est ça. Ça va au-delà de l'institutionnalité que lui ont donné les différentes républiques et mandatures gouvernementales qui ont existé ces derniers temps.
Bonjour, je m'appelle Nelly Ferfignat. J'ai 25 ans. Je travaille sur un lycée comme animatrice, coordinatrice vie scolaire et vie associative, un nouveau poste qui a été créé cette année, qui s'avère très efficace au niveau des jeunes. Sinon, comme passion, on pourrait dire la musique, la lecture, les voyages et puis les relations interpersonnelles avec les gens, faire des rencontres. Apprendre des choses, découvrir les autres. Je suis un peu née dedans aussi. J'ai eu un grand-père qui travaillait à EDF. Mon père a suivi aussi, donc fille et petite fille d'agent EDF. Je crois que la notion de service public, en fait, finalement, je me suis jamais trop interrogée dessus parce que pour moi, c'était finalement ça allait de soi. Donc je me suis dit pour la défense du service public. Disons que c'est pour la notion d'égalité qu'elle défend, dans le sens où finalement tout le monde, par exemple pour EDF, tout le monde va payer le même tarif. Il va y avoir aussi pour les personnes qui sont plus en difficulté, il va y avoir des aides. Il y a toujours des personnes, je sais que j'ai eu l'occasion de rencontrer des agents EDF qui sont là pour couper le courant, pour les impayés, et finalement ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter ça. Donc ça c'est quelque chose, je crois que l'égalité, qu'on soit au fin fond de l'Auvergne par exemple, où en plein milieu de Marseille, on paye le même tarif et pour le même service.
Salut Boucher.
Salut facteur.
J'ai un colis pour votre fille.
Elle est là.
Je m'appelle Dominique Poulain. Ça me semble important de dire où j'habite à Marseille. J'habite dans ce qu'on appelle les quartiers nord. Et je suis une adepte de la poste, tout simplement parce qu'à l'origine, je n'ai pas pu être acceptée par aucune banque. Je n'avais pas assez d'argent. Donc je suis au CCP depuis 13 ans maintenant. Et dans la même poste du 15e arrondissement. Donc je connais très bien toutes les personnes qui travaillent au guichet. Même si à une époque, c'était toujours les mêmes et que je les vois changer de plus en plus. J'y vais souvent, dans cette poste, et que j'ai remarqué mille et une choses qui ont terriblement changé en l'espace de 10, 12, 13 ans. Petit à petit, je me suis fait vraiment une idée, une relation qu'il y avait entre... un espèce de délitement du service public et ce que je ressentais des relations humaines. Et je crois qu'au fond, cette espèce de routine d'aller à la poste pour retirer des sous, en amener, c'était un petit moment de partage de la vie de quartier. Parce qu'en plus, la poste du 15e est bondée. Et que j'y ai observé des choses qui ont terriblement changé et que ça me fait peine. Ça me fait peine par rapport à ce dont je m'aperçois, que je le vivais bien comme un service public et que c'était pour moi important.
Alors je m'appelle Xavier Thomas, je travaille à Radio Grenouille. Cher service public. Alors ça sous-entend qu'il soit un peu cher le service public. C'est vrai que c'est cher le service public, c'est vrai que ça a un coût. Ça a un coût pour les citoyens, c'est quelque chose qu'on paye tous les jours, qu'on paye tous les mois, qu'on paye quand on paye une facture d'électricité, qu'on paye quand on a le téléphone. Enfin, de moins en moins d'ailleurs, parce que les entreprises que je cite, elles sont en train de sortir du service public et c'est un peu le souci. C'est clair que le service public, il avait au moins cette qualité, c'était de garantir une prestation, de garantir un service, de le garantir de manière égalitaire à tous les citoyens. Et si le service public est en voie de disparition, de privatisation, on peut penser que le coût de ce service public, il va devenir de plus en plus élevé pour tout le monde. Et puis surtout, on risque d'avoir des services à plusieurs vitesses, c'est-à-dire un service de base, plus ou moins un service public, mais qui soit vraiment très très basique, voire d'une qualité discutable. Et puis des services plus élaborés, où on va être attentif au client, on va lui fournir un service bien marketé, bien packagé, mais sûrement pour le prix que ça vaut. Moi, je suis né dans une école où mes parents étaient instits, et les premiers mots que j'ai appris à lire, c'est ceux qui étaient marqués à la porte de ma maison, et c'était marqué « Liberté, égalité, fraternité ». Donc je suis né dans un service public, je suis né dans le service public de l'éducation. On parle beaucoup de service public en parlant des entreprises publiques, d'EDF, de la Poste, de la Compagnie des Eaux, mais le service public, c'est aussi un service non marchand, c'est la recherche, c'est l'éducation, c'est un certain nombre de domaines qui de toute façon ne rapportent et ne rapporteront pas de fric, mais qui sont absolument indispensables à la vie des citoyens, à la vie des gens, ceux qui sont nés ici et ceux qui viennent d'ailleurs. Ce service public de l'éducation, il ne faut pas le circonscrire à une population d'indigènes, d'autochtones, de bons français, mais il faut que, comme la plupart des services publics, tous, ils soient ouverts à tous.
En tant que citoyen, je suis forcément usager du service public, quel qu'il soit. On a toujours un service public qu'on rencontre dans sa vie, au moins.
Eh bien, je m'appelle Michel Drey. J'ai été pendant pas mal d'années très, très impliqué dans des associations de lutte contre le sida. Je le suis toujours, mais moins. Je suis conseiller technique auprès d'une institution culturelle européenne. Voilà.
Bonjour. Alors, comment allez-vous?
Ça va.
Ça s'est arrangé pour vos histoires de papier?
Non, justement, je vais voir si j'ai pas reçu le papier pour moi encore.
On a une course à faire, au niveau de la poste, par exemple. Urgente, impossible à contourner. On ne peut pas faire l'économie de cette course. Eh bien, on décide de faire la queue, s'il y a la queue à faire. Et moi, j'ai remarqué une chose. À partir du moment où on est, peut-être aussi parce qu'on est des râleurs, hein, mais à partir du moment où on est dans un service dit public, on apprécie mal d'attendre, ne fût-ce que quelques minutes, quelques fois. Et un jour, j'ai fait un exemple à la bourse, à la poste du haut de la Canebière. Il y avait une montre au-dessus des guichets. Alors, j'ai regardé, il était 11h30 quand je suis rentré. J'ai dit, combien de temps je vais mettre pour arriver au guichet? J'ai mis 4 minutes. Alors, c'est un peu l'espace d'Einstein. Quand le mouvement est lent, le temps est plus long. Alors, on se dit, on a passé un quart d'heure, 20 minutes. Et je remarque que dans des endroits plus BCBG, pas service public, service privé, et où il faut attendre, on attend. J'ai l'impression qu'en fait, le service public bénéficie d'une image de marque qui est complètement faussée de la part des usagers. On vient, on prend, on veut le beurre et l'argent du beurre.
Alors, il y a peu de temps, je suis allée à la poste, comme j'y vais tous les 3 ou 4 jours. Et puis, c'était pendant les fameuses manifestations autour de la question du CPE, auxquelles se sont reliés pas seulement collégiens et étudiants ou lycéens, mais par exemple La Poste. Et je voulais savoir si éventuellement il y aurait grève dans ce petit bureau de poste que je connais si bien. Et je l'ai demandé ouvertement à la jeune guichetière que je connais un peu moins bien que d'autres. Et à ma grande surprise, à ma question qui était dite à voix haute parmi les autres gens qui attendaient au guichet autour de moi, elle m'a répondu à voix basse.
Dans ma vie quotidienne, oui, je peux décrire ma propre pratique du service public. Par exemple, La Poste, bah, je ne coopère pas depuis 30 ans avec le système bancaire. Je travaille pour tout ce qui est de ma gestion budgétaire mensuelle et personnelle avec les CCP. Et par esprit et par aussi souci d'économie, parce que c'était jusqu'à ces derniers mois un peu moins cher que les prestations des banques privées. Le service public pour moi, c'est pouvoir résoudre un conflit, par exemple, en envoyant une lettre recommandée ou en allant chercher une. Le service public, c'est pouvoir me déplacer par les transports en commun.
Ma question était toute simple, c'est « Et alors, lundi, vous allez faire grève ?» Et elle m'a répondu en chuchotant qu'en fait, il ne savait pas exactement qu'il y aurait peut-être un très léger mouvement de grève qui les conduirait à fermer le bureau vers 5 heures. Et j'ai tout d'un coup eu l'impression d'avoir posé une question qui était comme une indiscrétion, qui avait une espèce d'indécence. Et j'ai trouvé ça totalement étrange parce que, pour moi, quand je vais à la poste, je demande un service, mais je suis dans une... où j'ai toujours été dans une espèce de complicité et de relation... bon, fraternelle, c'est un grand mot, mais de communication, voilà. En tout cas, d'une relation humaine. Aussi bien avec les gens qui sont là derrière le guichet avec moi que les gens qui sont de l'autre côté du guichet devant moi, il y avait la même relation de dialogue. Et effectivement, en 93-94, au moment de différentes revendications des gens de la poste, j'ai posé cette même question. Et là, les gens me répondaient derrière leur guichet, tout à fait ouvertement. On se mettait à discuter de leurs revendications. Et du coup, les gens qui étaient avec moi en train d'attendre au guichet participaient à cette discussion. Et on avait l'impression qu'on était tous au même plan, sur le même plan, concernés.
Pour moi, le service public dans ma vie quotidienne, c'est être dans le collectif et être solidaire, finalement. Parce que moi, quand j'utilise un service public, je rémunère celui qui me le rend, enfin le guichetier, la postière, le chauffeur de bus, etc.
On a forcément devant nous et derrière nous des gens qui gueulent. Peut-être même moi le premier, quelquefois. C'est vrai. Et puis quand on prend ce petit jeu, je dirais, je demande à tout le monde de le faire, de regarder la pendule et de voir le temps qu'on met entre le moment où on est, entre le moment où on sort, il se passe entre 5 et 10 minutes. C'est quoi 5 et 10 minutes dans la vie d'un homme quand on passe une demi-heure dans une terrasse de café à attendre ?
J'ai cette sensation que il n'y a absolument plus le moindre intérêt des gens qui se servent de la poste, parce que ça devient plus être à la poste, mais se servir d'eux. Et je pense que c'est dû à mille et une choses. Je pense que c'est dû au fait que je remarque bien qu'au guichet, j'ai de moins en moins souvent des têtes que j'ai connues depuis très longtemps. Donc il y a un élément de complicité qui ne peut plus s'établir. Et je pense aussi que il y a un espèce d'individualisme. Bon, on entre dans les clichés que l'on connaît, qui est renforcé par un système qui fait que chacun essaie de défendre son bout de gras et qui a plus une coalition complice, une coalition humaine.
Derrière ma lettre ou mon colis, ben, y a toute une administration qui est derrière. On accepterait qu'une assurance puisse avoir quelques petits dérapages au niveau de son guichet. On l'accepte moins d'une poste.
J'ai une manie singulière, je tombe amoureux des postières. Elles ont le sourire accueillant des gardiens de maison de redressement. Elles ont un parfum bien à elles, tout dépend de ce qu'il y a dans leur gamelle. Ces écouteurs sur le cigare, la mienne ressemble à un homard. Quand une postière vous dit:
qu'est-ce que c'est?
Vous faites comme Mésic, vous lui faites
un baiser.
Vous lui dites: vos lèvres sont les fruits de saison, et ça tombe au poil, moi j'adore les citrons.
Disons, je crois qu'au niveau, ça sera pas philosophique, mais plus politique, je pense que ça se situe plutôt à gauche. Ça c'est sûr, ça a été toujours dans la famille. Après, en quoi elle est emprunt, on va dire que c'est peut-être des valeurs qui sont véhiculées aussi par ça. Comme je disais tout à l'heure, l'égalité entre tous, et puis un service accessible à tous. C'est peut-être aussi une lutte contre tout ce qui est recherche de rentabilité, recherche de la compétitivité, tout ça. C'est vrai que dans la famille, c'est pas trop présent cet esprit-là, à chercher le meilleur prix, à guetter. Là, on le voit au niveau des opérateurs, ils sont encore attachés, par exemple, à France Télécom pour Internet. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu... Ils n'ont pas voulu lâcher France Télécom parce que c'était le reste du service public et il fallait le défendre. Donc je crois que dans la famille, ça a toujours resté présent, dans le sens où on est conscient que peut-être c'est un petit peu plus cher, mais finalement le service est derrière, quoi.
Je suis un consommateur de services publics. Quand je vais à la poste, c'est parce que j'ai besoin de consommer la poste ou la santé, ou etc. Donc j'agis comme un consommateur.
Pour moi, pour protéger ce service public, l'investissement qui me paraît le plus adéquat est un investissement qui s'appuie sur deux attitudes fondamentales. C'est-à-dire mettre l'autre comme aussi, au moins aussi important que moi, ça serait pour définir tenter de définir le collectif. Et l'autre chose, la solidarité, la réciprocité, c'est une valeur de traiter l'autre comme je voudrais être traité moi.
Peut-être que c'est moi finalement qui suis tombée dans une logique où finalement ben, on cherche un peu le moins cher aussi au niveau des opérateurs. Par exemple, moi je suis pas à France Télécom et puis parce que ben, c'est aussi les moyens qu'on a derrière quoi. Si finalement on se retrouve à avoir est-ce qu'on a les moyens encore de défendre ou pas. Donc on s'adapte un petit peu. C'est vrai que par contre mes parents ne quitteront pas France Télécom, je crois. Je pense que c'est aussi pas qu'une question de moyens, parce que finalement on a un peu l'impression aussi ces dernières années que tout ça, ça nous échappe un peu, que finalement on privatise et puis on ne nous demande pas trop notre avis. Je crois que bon, c'est pour beaucoup de choses comme ça quand même. Mais non, moi j'aimerais le défendre, et c'est vrai que EDF par exemple, je vais le défendre, La Poste aussi, c'est des choses qui me semblent très importantes. Je crois que France Télécom, finalement, je me suis pas rendu compte de la dimension que ça prenait.
Et le défendre comment ? Le défendre comment ?
Comment le défendre ? Eh bien, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on a vraiment les moyens à notre niveau de le défendre ? Je pense que... j'espère que oui. Est-ce que je vais trouver des moyens, comment dire, ben c'est vrai que c'est pas cautionner tout ce qui est dans une logique un peu de rentabilité capitaliste. Mais après pour EDF c'est pareil, moi j'ai l'impression que on essaye de le défendre, finalement, c'est par une philosophie, c'est par un engagement, un parti pris. Mais au niveau concret, j'ai du mal à voir comment défendre un service public à un niveau de citoyen, quoi.
Militant, c'est quelqu'un qui combat. Militant, ça, c'est un peu comme militaire, c'est quelqu'un qui est engagé dans un conflit, donc qui identifie que la situation elle est conflictuelle et qui prend parti dans ce conflit, pas forcément pour prendre les armes, hein, mais en tout cas pour prendre la parole, et puis pour intervenir autour de soi. Et j'avoue que moi, je me sens pas dans ce combat-là. Peut-être aussi parce que ça correspond pas à mon orientation politique, ce qui fait un peu le background de ce que je ressens, de ce que j'aime et de ce que je comprends du monde. J'ai un peu l'impression que la problématique autour des services publics, c'est une problématique autour de la nation, parce que les deux sont un peu liés. Les services publics, c'est quelque chose qui est lié à l'État, et moi j'ai longtemps pensé que l'État était quelque chose qui devait disparaître.
Ouais, c'est pas dur. Comment ça se fait, vous pensez maintenant plus comme avant ?
Pardon ?
Vous pensez plus comme avant maintenant ?
C'est-à-dire plus comme avant ?
Bah avant, tous les matins, on avait notre courrier. Dernièrement, on l'avait à 8h30, 9h. Après, on l'a vu, avant, on l'avait toujours vers 9h30. Et maintenant, bon, on l'a même des fois l'après-midi.
C'est vrai.
Bah en fait, je suis un peu nouveau sur la
tournée. Ah bon, parce que
je suis nouveau sur la tournée. Donc,
parce que je crois que c'était encore des grèves ou des trucs comme
ça. Non, du tout. Donc je découvre plus ou moins. Je prends mon temps quelque peu. Par contre, de l'avoir l'après-midi, c'est pas tous les jours non plus en général.
Non, mais ça fait deux fois, je crois, une fois ou deux.
Une fois c'est arrivé, une fois cette semaine.
Alors j'ai dit quelque chose d'anormal, c'est bizarre ça. Hein. Bon, bah alors c'est tout. Hein.
Voilà.
Allez, bonne chance. Journée, hein.
Merci bien.
Alors que je vis dans une zone parfaitement citadine, hein, je parle pas d'un milieu rural, même si j'ai la chance de vivre dans une maison où il y a un jardin, ce qui n'est pas donné à tous. Je suis dans les quartiers nord de Marseille, en face de la Bricarde, de Castellane, du Plan de Daou, et complètement encerclé, intriqué, avec une connaissance des gens qui vivent là aussi. Et pendant des années, mon premier facteur a été toujours le même. Et je sais de lui qu'il est né en Corse, qu'il a eu toute une vie de facteur en Corse. Je sais à quel point il était un horticulteur amateur éclairé. Il m'a raconté des tas de moments de sa vie. Il a remarqué que j'avais un beau néflier. Et il m'a dit qu'il adorait les nèfles. Et un jour, je lui ai préparé un cajot de nèfles parce que je savais qu'on allait se voir au moment où il allait glisser les lettres dans la boîte aux lettres. Si j'étais à la maison, et du coup, plein de gratitude, la fois suivante, il est revenu avec un cajot, lui aussi, mais avec des raquettes de, comment dirais-je, de figuier de Barbarie, et que j'ai planté aussitôt. Il y avait 4 ou 5 raquettes, et au jour d'aujourd'hui, 10 ans se sont passés, et j'ai des buissons monumentaux de figuier de Barbarie.
Je crois qu'il faut beaucoup de dévouement, enfin, si je me souviens du temps et de l'énergie justement que mes parents dispersaient là-dedans. Je crois qu'il faut beaucoup de dévouement. C'est quelque chose qu'on retrouve enfin, qu'on retrouverait, peut-être au passé, autrefois, chez tous les agents du service public. C'était pas une forme de sacerdoce, mais presque. Il y avait une grande affirmation de la laïcité. Peut-être particulièrement dans l'école où j'étais, parce que c'est vraiment au cœur de cette activité scolaire. Mais il y avait quelque chose d'un engagement presque spirituel, d'être certain de participer à ce que ce qu'on fait soit du domaine du bien, du domaine du bon, du domaine d'une évolution positive. Donc beaucoup de dévouement.
Mon facteur est parti à la retraite. Obscurément, je sais que j'ai cherché à renouer ces rapports-là, qui étaient des rapports tellement délicieux. On me donnait des tas de conseils sur mon jardin, où je lui posais des questions sur sa vie de facteur. Et je n'ai pas pu le refaire parce que j'ai l'impression que même ce monsieur que je vois maintenant depuis 2 ans, probablement répond à des ordres extrêmement précis. Il est tout à fait poli, mais il se contente de me saluer, de glisser les lettres dans la boîte aux lettres, qu'il ne me donne même jamais en main propre, même si je suis là, juste à côté de lui. Et il s'en va. Et je pense qu'il est effectivement dans un système où on lui a parfaitement appris que maintenant, il a à répondre à un règlement extrêmement strict. Le temps est compté, il y a des actes légaux, des actes illégaux. Tout ça, pour moi, ne participe plus de ce qu'on appelait le service public, qui pour moi n'existe que parce qu'il y a un échange. Et qu'on n'est pas en train, dans un service public, de se servir de puiser dans, mais dans un service public, on est dans un système d'échange et d'entraide.
Le rôle des citoyens n'est pas de soutenir, n'est pas de défendre le service public, c'est de le soutenir. Et c'est pas du tout le même verbe, c'est un engagement. Parce que le soutien implique le fait de dire à l'État, on vous a peut-être élu, vous, messieurs les gouvernants, mais n'empêche que c'est avec notre pognon que vous faites les choses. Donc, je dirais que autant il y a eu le délit d'abus de biens sociaux, pourquoi ne pas imaginer qu'il y a un abus de biens politiques, puisqu'on parlait de ça. Et à ce moment-là, je crois que c'est plutôt soutenir un service public que de le défendre. Parce qu'il est bien évident que défendre un service public, c'est dire une lapalissade.
Moi, je n'ai pas trop l'esprit de sacrifice, franchement. Je crois que chaque être humain peut prendre sa décision en toute liberté et responsabilité. Car pour moi, effectivement, dans cette affaire de défense du service public, il y a une décision personnelle qui se termine dans le collectif. C'est-à-dire, bon, moi, bien sûr que j'aime bien mon confort, mes manières de vivre. Bon, tout ça, ça me plaît beaucoup. Puis je vois que de moi, il sort aussi quelque chose d'autre qui se termine dans l'autre, quoi, inexorablement. Mon regard, mon geste, mon attitude, mon fric, ma gueule, enfin tout ça, il y a des tas de choses qui ont à voir avec l'autre. Bon, donc oui, je crois que Je crois que oui, il y a un énorme individualisme depuis une trentaine d'années, depuis d'ailleurs ma génération qui manifestait beaucoup plus souvent que récemment, pendant un mois et demi, deux mois. Et puis effectivement, bon, il y a eu... Il y a eu le triomphe de la compétition, de la concurrence, de la réussite et du non-sens apporté à l'échec, alors que je crois que d'échouer peut être utile. Quoi. Enfin, on apprend, hein. C'est l'idéal pour moi, c'est d'apprendre sans limite, sans...
Le vrai problème aujourd'hui dans la lutte contre la précarité, pour le service public, etc., c'est pas de dire je suis pour, je suis contre, on est forcément pour. C'est idiot, c'est comme si je suis contre la guerre. Évidemment, gros con, t'es pas pour la guerre. La question, c'est de savoir de quelle manière je vais avoir une réflexion citoyenne qui me permet d'assurer mon discours, de dire oui, les services publics sont importants. Oui, la lutte contre la précarité est importante. Et de mouiller le droit régalien du gouvernement, de l'État, de donner en conséquence.
Pour essayer de défendre le service public, moi j'avoue que je suis un peu lâche par rapport à ça. Je voudrais bien, là, tu vois, pour faire plaisir aux auditeurs, avoir l'air d'un militant et de dire qu'effectivement je me sens très concerné par cette grave question. Mais comme tout le monde, bah, je peste, je râle parfois que ces services publics ne soient pas à la hauteur de mes attentes. Et puis je râle et je peste souvent quand il s'agit de payer une facture. Et puis je me dis aussi souvent que y a quelque chose d'un peu inéluctable dans l'évolution dans laquelle on est. Ou en tout cas, je ne vois pas très bien quel pouvoir, quel poids, quelle influence je peux avoir, si ce n'est en me posant des questions et puis en essayant d'y répondre, mais encore une fois, j'ai pas vraiment, enfin, je suis pas vraiment un militant là-dessus.
Je peux vous demander quelque chose. Demain, c'est vous qui venez.
Demain matin, oui.
Parce que comme c'est samedi, des fois, c'est pas le même horaire que d'habitude.
Oui.
Parce que je vais m'absenter, je dois partir ce soir pour aller au chevet d'une amie qui est très malade.
D'accord.
Alors, si vous me sonnez, je serai peut-être pas là demain.
Ok. Mais il y aura
si
peut-être vos voisins.
Avant 10h, oui.
C'est possible. Sinon, je sonne chez vos voisins et voilà, peut-être
si
c'est
venez,
eux qui m'ouvriront.
Si
oui, non, mais ça, je viendrai demain matin, c'est sûr. Je travaille.
Si vous venez, vous me sonnez moi. Je le prends parce que j'ai des amis qui viennent me chercher. Et je vais sur Aix.
D'accord.
Vous comprenez ? Alors, quand ils sont là, on ne peut pas garer. Les voitures, ils ne peuvent pas garer et tout. Alors, il faut se débrouiller comme on peut.
D'accord, sans problème.
Je vous le dis à tout hasard. Ou alors. Si personne ne vous ouvre, vous gardez le courrier.
Pour lundi. Et lundi, par contre, c'est quelqu'un d'autre qui viendra sur la tournée. D'accord. Votre nom, c'est ?
Je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie, où, un peu lointain, là, déjà, maintenant, où j'ai vraiment travaillé à défendre le service public. C'était très exactement au moment où mon fils allait sortir du CM2. Donc passer de l'école publique d'ailleurs, l'école communale au collège, et toujours dans ce quartier du 15e arrondissement où je vis, autour de Saint-Antoine, on discutait dans les derniers mois de CM2 avec le directeur et instituteur de nos enfants, très librement, c'était un homme assez magnifique cet instituteur, et il nous avait expliqué qu'il avait constaté depuis quelques années qu'à la fin du CM2 régulièrement, quand il interrogeait les parents, il s'apercevait qu'il y avait quasiment 90% des parents, en plus des gens, on le sait dans nos quartiers, qui ne sont pas des gens fortunés, des gens pas du tout dans des situations aisées, ni économiquement ni socialement, et bien ces gens-là faisaient des pieds et des mains dans tout ce qu'ils entendaient dire de non sécuritaire, d'affolant, largement porté par les médias aussi, il faut bien le dire. Ces gens-là faisaient des pieds et des mains pour mettre, au moment du collège, leurs enfants dans des collèges privés.
Moi, je m'engage au sein de la CCAS, qui est le comité d'entreprise des FGDF, qui est un comité d'entreprise un petit peu atypique, qui a plusieurs particularités qui le différencie des autres comités d'entreprise. Et finalement, je m'engage avec eux parce qu'ils ont aussi un état d'esprit. Ils défendent des valeurs qui, moi, me semblent très importantes. Donc, je travaille avec eux sur les colonies de vacances, sur les centres de vacances, où j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur les centres de famille qui sont ouverts aux agents EDF et GDF.
On a été un tout petit groupe de femmes, hein. C'est souvent les mères qui se rencontrent en accompagnant leurs enfants, en venant les chercher à l'école, a décidé qu'il y avait probablement un boulot à faire avant la sortie des classes de CM2, c'était de se renseigner très très précisément sur tout ce qui existait comme collège public avoisinant, d'aller interroger les principaux de ces collèges, les profs qu'on pouvait rencontrer, et d'essayer, par rapport à ce qu'on savait des fantasmes et des réalités observées dans les différents collèges publics de ces quartiers-là, essayer de voir comment des principaux de ces collèges et des profs y répondaient, et puis faire un espèce de petit résumé de tout ça aux parents.
Ensemble. Je crois que c'est le mot « ensemble » qui me vient à l'esprit, sans que je cherche d'ailleurs à le calculer. Hein. Je réponds à ta demande d'être vraiment... d'une réponse spontanée là-dessus, c'est cette idée d'ensemble. C'est peut-être quelque chose qui, dans un individualisme forcené, accentué probablement par les médias, par la consommation et la surconsommation de médias que l'on fait, c'est cette difficulté aujourd'hui de se penser ensemble. On est ensemble. On est ensemble quand on est dans la rue, on est ensemble quand on travaille. On a de nombreuses occasions d'être ensemble, mais on ne le pense pas, on ne le ressent pas. On a moins cette conscience de constituer un ensemble.
Je crois que oui, le service public doit évoluer comme évolue la société. Simplement, l'intérêt d'avoir un État pour moi, c'est que, comme c'est lui qui détient le pouvoir de maximiser la violence sous toutes ses formes, politique, économique, racial, etc. Le point pour moi, c'est que l'État doit laisser la liberté à ses citoyens. Je crois que plus l'État favorisera l'autogestion et des services publics et des utilisateurs, des bénéficiaires et des destinataires des services publics, plus tout ça évoluera. Maintenant que cela évolue de manière autoritaire, sous l'égide d'une minorité du moment, moi je crois que ce n'est pas une bonne voie d'évolution du service public. Au contraire, je crois que le service public devrait se prendre en main, hein, et se fédérer, se solidariser, se reconnaître comme faisant partie du collectif, quoi.
Finalement, moi, j'étais pas depuis si longtemps que ça dans ce quartier. Donc, j'ai amassé un tas d'informations avec mes copines sur ce qui se passait dans différents collèges. J'ai rencontré des jeunes profs qui auraient pu s'éclipser au bout de 2 ans dans un collège et qui avaient déjà 6 ans de carrière dans des collèges dits difficiles et qui adoraient ça et qui faisaient un boulot absolument magnifique. J'ai rencontré aussi des principaux qui avaient des langues de bois ou qui étaient prêts à mentir en niant toute espèce de racket quand je savais bien par mes jeunes voisins qui en avaient. Mais ok, ça existe, alors comment on fait, comment on se débrouille avec, quelles sont les réponses à apporter. Et c'est vrai que tout le fruit des informations qu'on a pu récolter, on l'a amené lors de diverses réunions à l'école où étaient nos enfants. On en a discuté avec tous les parents. Qu'à la fin de cette année, petite victoire sur les 25 élèves de cette classe de CM2, 25 ou 27, je ne sais plus. Il y en a eu, je crois, 12, ce qui était vraiment nettement mieux que les années précédentes, qui sont allées dans l'un des collèges publics qui entouraient nos quartiers. Voilà.
Oui, il y a lieu d'espérer. Parce que l'espoir, c'est le cœur palpitant de l'acte humain, de n'importe quel acte humain, qu'il soit humble ou important. Oui, je crois qu'il y a qu'il y a un tournant historique dans lequel on est et qui va faire que l'individualisme forcené, qu'il soit personnel ou social, va reculer et disparaître dans la corne des songes comme une rêverie de, comme une rêverie fugace dans notre courte histoire.
Ça a été certainement le moment où j'ai essayé très fort de lutter contre un courant qui me semblait, du point de vue de l'éducation, pas seulement de mon fils, mais à venir, très problématique. C'est-à-dire que dans des quartiers dits difficiles, parce qu'on y a très volontairement, politiquement, rejeté la masse des gens qui n'ont pas de boulot, les émigrés, etc., etc. Dans ces quartiers-là, ce qui fait la beauté d'une école publique, c'est qu'on y retrouve aussi bien les enfants des commerçants, que les enfants du pédiatre du coin, que les enfants du vétérinaire du coin, que les enfants des habitants des cités qui ont du boulot, des habitants des cités qui n'ont pas de boulot, et que c'est par cet amalgame qui existait d'ailleurs dans l'école communale que je connaissais, qu'on crée une vraie école publique qui représente la totalité d'un quartier. Et que du coup, là, on draine une classe où il y a des tas de potentialités, des tas de débuts de vie chez ces jeunes enfants qui vont en plus balader leurs copains de famille en famille. Et c'est comme ça qu'on crée de beaux échanges et une belle mixité, aussi bien d'origine que de place sociale ou économique. Et c'est évidemment en décidant a priori qu'on met des enfants en collège privé qu'on va tuer l'école publique et qu'on va créer des ghettos ici ou des écoles d'élite là, ce qui me semble effectivement tout à fait le contraire de ce que l'école publique est censée être. Voilà.
J'ai l'impression que c'est assez inéluctable d'assister aujourd'hui à une dissolution de l'État. Alors par quoi est-ce qu'il sera remplacé, on ne sait pas. J'espère qu'on va pouvoir voir apparaître de plus en plus de coopératives, de mutuelles, d'associations libres de citoyens qui ont conscience d'avoir des désirs, d'avoir des moyens et de souhaiter mettre en commun, mettre ensemble leurs désirs et leurs moyens. Et je ne crois pas qu'il faille attendre que ça vienne d'en haut ou que ça nous soit proposé par la voie législative, réglementaire ou autre. Je crois qu'il ne faut pas hésiter de ce point de vue-là à mettre en place des structures, voire des micro-structures autour de soi pour développer quelque chose qui soit un peu plus large que le service public et qu'on pourrait appeler le bien commun.
Je m'appelle Dominique Poulain.
Je suis Philippe Suard.
Bonjour, je m'appelle Nelly Serfignat.
Alors, je m'appelle Xavier Thomas.
Eh bien, je m'appelle Michel Drey.
Mon cher service public, une émission réalisée dans le cadre de la semaine maintenant sur Radio Grenouille. Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu témoigner pour la réalisation de cette émission.
Faut arrêter la machine. On va arrêter la machine, sinon...
Allez, vous allez l'entendre démarrer.
De la résidence de Nicolas.